Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Cap Sport. On est ensemble jusqu'à 19h au menu Wimbledon. Le grand chelem londonien commence lundi. Bernardin Alemann de la RTS sera avec nous pour évoquer les chances des Suisses. Et on sera aussi en direct avec le joueur français Pierre Hugerbert parce qu'il aura l'immense honneur de jouer le double avec Andy Murray, le retour du Britannique chez lui après son opération de la hanche. On ira se rafraîchir un coup dans le lac de Neuchâtel. Est-ce que vous savez ce que c'est que le wake surf? Non, bah vous le saurez, on en parlera à l'occasion du Swiss Wake Surf Contest qui a lieu ce week-end, et puis on repartira sous les chaleurs étouffantes de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. On en profitera pour faire un point sur l'évolution du foot africain avec l'entraîneur hispano-suisse Raoul Savoie.
Cap Sport, Jérémy Pignard.
Le blanc sera de rigueur dans le dress code pour les deux prochaines semaines, au moins pour les amoureux du tennis, puisque Wimbledon commence lundi. Dans le clan suisse, Roger Federer, Stan Wawrinka, Belinda Bencic, Timea Bacinski, Victoria Golubic, Jill Teichmann et Stéphanie Vögele seront de sortie sur gazon. Et Bernardin Alemann aussi pour la RTS. Bonsoir Bernardin.
Pas tout à fait en blanc, mais ça ira quand même. Bonsoir.
Pas sur le gazon, c'est ça qu'on peut dire. Vous suivrez ce tournoi pour la radio, pour la RTS. Bernardin, on se pose tous la même question. Après la 10e victoire de Roger Federer à Halle la semaine dernière, à 37 ans, on sait que le gazon, c'est son terrain favori. Est-ce qu'il peut encore aller chercher un tournoi du Grand Chelem cette année? J'ai presque envie de dire, s'il y en a un, c'est celui-là, non?
Ah bah oui, en reste deux, et puis l'US Open, il l'a plus gagné depuis 10 ans, hein, donc la dernière fois c'était en 2008, donc en effet, s'il y en a un, c'est celui-ci, vous avez raison, et il a l'air en forme, Roger Federer, il est bien, il est motivé, j'ai envie de dire, c'est un peu comme toujours, ça dépend un peu de la forme en face de Novak Djokovic, parce que c'est quand même lui qui donne le là quand il est pas bien dans sa peau. Novak Djokovic, il est pas bon, il est capable du pire, mais par contre, quand il est à son meilleur niveau, eh bien, je veux dire, il a toujours un petit cran d'avance, une petite vitesse supérieure par rapport à Roger Federer, mais c'est vrai que globalement, les feux sont bien ouverts pour le Suisse.
Mais la particularité de la saison sur gazon, Bernardin, c'est qu'elle est très courte. On n'a pas vraiment le temps, comme sur terre battue, avec les Masters 1000 d'avant, etc., de se faire une vraie idée de la forme de tous les cadors.
Non, et c'est ça qui rend la victoire de Federer à aller encore plus intéressante, parce qu'il n'avait qu'un seul tournoi. Imaginez s'il se plante à Halle et il tombe au premier tour, parce qu'il n'a pas été extraordinaire lors des premiers tours Federer, et ben, tout d'un coup, voilà, il se retrouve avec quelques jours de plus de préparation mais sans match, et il arrive à Wimbledon sans trop de confiance, sans trop savoir où il va. Donc là, il a, contrairement à Nadal et Djokovic, il a vraiment une belle semaine avec une victoire. Franchement, même si ça n'a pas toujours été génial à Halle, il gagne quand même le tournoi une 10e fois. Il était bon, il s'est montré de plus en plus serein tout au long de la semaine. Et là, il a l'habitude, Roger Federer, à 37 ans maintenant, bientôt 38, hein, il les aura dans un mois et demi. Franchement, ce n'est pas maintenant qu'il va apprendre à jouer sur le gazon. Donc, il a vraiment une capacité d'adaptation qui est très élevée. Et même si c'est vrai que la préparation a été courte, je ne pense pas que ce soit un problème pour lui.
Il lui faudra aussi une capacité de concentration, parce que Bernardin, il y a eu polémique cette semaine. Roger Federer qui sera tête de série numéro 2 devant Rafael Nadal. Pourtant, c'est l'inverse à l'ATP. Nadal est le numéro 2 mondial. Tout simplement parce qu'à Wimbledon, on a son propre mode de calcul pour désigner les têtes de série. Ça a été beaucoup commenté, y compris par des grands noms du tennis. Pourtant, on sait depuis des années que le calcul londonien est différent. Est-ce qu'il faut voir un Roger Federer avantagé? Est-ce qu'il y a vraiment scandale là-dedans, Bernardin?
Eh bien, la preuve que non, c'est que finalement, toute cette tempête, eh bien, ça ne sert à rien, puisque finalement, le tirage au sort a fait quoi? A fait que Federer pourrait rencontrer Nadal en demi-finale. C'était finalement le seul truc, c'était que si Federer, comme ça, voilà, si ça dépend, est-ce qu'il joue contre Nadal ou pas en demi-finale, il aurait pu éviter les deux. Mais donc, finalement, le tirage au sort d'aujourd'hui fait que c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Mais non, parce l'année passée, par exemple, Djokovic de tête était, je crois, il était tellement mauvais, il était 21e mondial. Il a été finalement classé de série numéro 12, donc lui aussi il en a profité. Et finalement, il y a, comme vous l'avez dit, ça fait des années que ça dure, et il y a des critères. Je veux dire, les membres du Collegium Tennis Club ne se rencontrent pas dans un club pour décider, allez, on va avantager le Federer. Il y a des critères très
Bernardin, on a juste un petit problème de liaison, on n'arrive plus à vous capter. Si, je ne sais pas où vous êtes, si vous avez la possibilité de bouger, ou alors on va voir si
un peu, c'est compliqué de bouger, je suis avec vous, mais voilà, je vais continuer, vous me direz.
Parfait, ça va mieux.
Bon, il disait que les critères sont des critères sportifs. Ce ne sont pas des critères comme ça, olé olé, ce sont des critères sportifs. Donc, il n'y a strictement aucune raison de se plaindre, même si, voilà, ça change, tout change. Regardez les cinquièmes sets, le système est différent. Dans chaque Grand Chelem, ici, ce sera un tie-break à 12-12. Voilà, chaque Grand Chelem fait comme il veut. Ce n'est pas ça qui va décider du vainqueur final, de toute manière.
Et donc, Roger Federer jouera au premier tour face au jeune Sud-Africain Lloyd Harris, 87e mondial. A priori, c'est largement à sa portée, évidemment. Pour Stan, ce sera face au Belge Ruben Bemelmans, numéro 171. Par contre, Stan Wawrinka sur gazon, on sait, ça n'a jamais trop été sa tasse de thé. Qu'est-ce qu'il faut en espérer? J'imagine qu'il n'a pas forcément fait de ce tournoi une priorité.
Ouais, quoique, parce que c'est quand même le seul grand chelem qu'il n'a jamais remporté, Wawrinka, d'une part, et puis il s'est aussi adjoint les services de Valverde, qui est un entraîneur qui connaît bien le gazon. Ça veut quand même dire que Wawrinka a envie de briller. Imaginez s'il réussit à gagner une fois Wimbledon, il aura gagné les quatre grands chelems, ce qui est absolument extraordinaire. Il a trois grands chelems pour l'instant de sa carrière sur trois surfaces différentes. Il ne lui manque que Wimbledon. Mais c'est vrai qu'il a plutôt brillé sur d'autres surfaces. Mais il le dit lui-même, j'aime le gazon. C'est pas que je l'aime pas, c'est je l'aime. Ça n'a pas toujours bien fonctionné, mais il l'apprécie. Donc je pense que pour lui, c'est quand même une priorité, même si évidemment, on le sait avec lui, il préfère commencer tranquillement les tournois, voir comment ça se passe, ne pas se mettre trop de pression et ensuite, voilà, advienne que pourra pour lui.
Et chez les filles, beaucoup d'attentes autour de Belinda Bencic aussi, parce qu'un petit peu à l'instar de Federer, elle a montré des choses intéressantes au tournoi de Majorque sur gazon, où elle a été finaliste. On peut espérer un parcours intéressant de sa part, là aussi sur une surface sur laquelle elle n'a jamais, en grand chelem, trop brillé jusque-là.
Non, mais bon, Grand Chelem, c'est vrai qu'à part son quart de finale à l'US Open, ça fait 5 ans déjà, en 2014, il n'est jamais allé plus loin que les huitièmes de finale. Mais alors là, par contre, alors le tirage au sort, il est terrible. Parce
ouais, face à Pavlyuchenkova.
Face à Pavlyuchenkova. Voilà. Et puis ensuite, les tours suivants, c'est terrible parce qu'il pourrait y avoir Donavekic au troisième tour, Ashleigh Barty, la numéro 1 mondiale au quatrième. Peut-être même une Suissesse avec Stéphanie Feguelet au deuxième tour, mais là vraiment il y a un quart de tableau qui est absolument terrible, où toutes les meilleures y sont. Cependant, il y a aussi Maria Sharapova qui doit être là-dedans, donc c'est vraiment terrible. Donc elle n'a pas été gâtée par un tirage au sort, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement en forme. Elle a eu une balle de match en finale à Majorque, ensuite elle a perdu assez rapidement à Eastbourne, mais bon, elle avait joué deux matchs en deux jours, elle revenait de Majorque, elle était très fatiguée, donc je pense que cela est une bonne chose, parce qu'elle a eu un petit peu de repos, mais c'est vrai qu'on peut espérer pour elle un superbe tournoi, parce qu'elle est en forme depuis le début de l'année, elle est en confiance, elle est bien entourée avec des relations bonnes maintenant avec son père, avec son entraîneur sportif aussi, qui est son petit copain. Elle a vraiment un très beau cadre, mais c'est vrai que le tirage au sort pour elle, c'est pas facile. Un dernier mot, c'est vrai qu'il y a 5 filles qui se sont qualifiées directement, donc 5 Suissesses pour le tableau principal, c'est plus arrivé depuis très très longtemps.
Merci beaucoup Bernardin Allemann d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très bon tournoi avec la RTS à Wimbledon, merci. En espérant que vous aurez une victoire suisse à commenter. Un grand merci. Et puis l'un des autres moments forts de ce tournoi, ce sera aussi le retour d'Andy Murray chez lui à Wimbledon. Pas simple, pas en simple, mais en double. Et ce sera avec un Delémontain d'adoption, le français Pierre-Hugues Herbert, qui est avec nous en direct. Bonsoir Pierre-Hugues.
Bonsoir.
Vous êtes à Londres actuellement avant le début de Wimbledon, après avoir joué le tournoi d'Eastbourne. Franchement, Pierre-Hugues, est-ce que ce sera un double comme un autre? Parce que c'est quand même Murray chez lui, le retour. Peut-être, on ne sait pas, on ne l'espère pas, mais peut-être aussi sa dernière devant son public.
Non, pour être très honnête, je ne pense pas que ce sera un retour, en tout cas un double comme un autre. Parce que voilà, c'est son retour à la compétition après 6 mois, après une opération de la hanche. On ne sait pas ce qui va se passer derrière, même si j'ai quand même bon espoir pour lui qu'il arrive à revenir à un très bon niveau en simple. Mais oui, c'est une chance pour moi de pouvoir jouer ce double à ses côtés et j'espère que ça se passera bien.
Vous avez, j'imagine, échangé avec Andy Murray. Comment ça s'est fait, cette collaboration, et comment lui aborde aussi ce tournoi particulier? Est-ce que vous avez pu discuter avec lui là-dessus?
C'est une assez longue histoire parce que en fait son entraîneur était venu me voir au moment de Madrid, m'avait un peu proposé l'idée, en sachant que lui il sortait de l'opération et qu'il n'y avait aucune certitude sur son état de forme. Et petit à petit, moi j'avais pas forcément prévu de jouer le double à Wimbledon, mais j'ai fait un petit peu une exception pour lui parce que voilà, c'est Andy Murray et que pour moi, ça sera une expérience extraordinaire. Et je pense que voilà, il y a pas mal d'incertitudes, même s'il a quand même réussi à gagner au Queens avec Feliciano Lopez. Voilà, il a fait un début tonitruant en arrivant après 5 mois sans raquette à gagner le tournoi au Queens. Mais on va voir ce que ça donne voilà, à Wimbledon.
Justement, dans le jeu, vous allez avoir un partenaire peut-être encore en quête de repères, même s'il a gagné au Queens, comme vous venez de le dire. Vous avez, vous, 4 victoires en double en Grand Chelem. Ça veut dire que vous allez avoir un rôle particulier vis-à-vis de lui dans son retour en forme?
De toute façon, voilà, ça va être une nouvelle collaboration, ça va être un nouveau partenaire. Forcément, ça sera différent. Il va falloir qu'on arrive à trouver nos marques ensemble sur le terrain. Et il faut espérer que voilà que ça marche bien, qu'on arrive à former une belle équipe. Après, on verra ce que ça donne. Déjà au premier tour, c'est certain que moi je pourrais peut-être lui apporter le côté un petit peu plus joueur de double. Lui, à côté de ça, a toute son expérience de joueur de simple. Voilà, il a gagné 2 fois Wimbledon en simple. Il avait gagné les JO aussi sur cette surface. Donc c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience sur cette surface et qui va m'apporter aussi lui de son côté des choses.
Au niveau du public, vous attendez à un truc énorme?
Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai déjà vu son retour au Queens. Voilà, c'était dans des ambiances de dingue sur le central. C'est certain que là, je pense qu'il sera attendu quoi qu'il arrive parce que c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de ce sport et surtout marqué l'histoire de Wimbledon. C'est le dernier Anglais à avoir gagné ici. Donc forcément, les gens vont vouloir le suivre et voilà, j'ai un rôle, un petit peu de pression sur les épaules pour essayer d'apporter voilà des éventuellement des victoires et de faire mon job de mon côté.
Un dernier mot sur le simple, Pierre Hugerbert, vous entrerez en lice face au Sud-Africain Kevin Anderson, finaliste l'an dernier. Comment vous abordez ce tirage face à un client mais qui revient de blessure?
Ouais, non, c'est sûr que c'est un client, c'est pas forcément, enfin c'est pas du tout un très bon tableau et un très bon premier tour. C'est un joueur qui joue extrêmement bien sur gazon, qui a repris donc au Queens. Voilà, on connaît pas forcément son état de forme, mais comme tous les grands champions, voilà, quand ils reviennent, c'est qu'ils sont en forme. Et forcément, il va falloir sortir une grosse partie pour essayer de se qualifier pour le deuxième tour.
Merci beaucoup, Pierre Hugerbert, d'avoir été en direct avec nous dans Cap Sport. On vous souhaite un très bon tournoi, beaucoup de plaisir aussi et de la réussite des résultats avec Andy Murray notamment. Merci.
Merci beaucoup.
Très bonne soirée.
Cap Sport jusqu'à 19h.
Est-ce que vous savez ce qu'est le wake surf? Pas forcément, mais c'est l'occasion de découvrir cette discipline montante parce que c'est ce week-end à Neuchâtel, il y aura le Swiss Wake Surf Contest sur le lac, qualificatif d'ailleurs pour les championnats du monde. Ça commence demain dès 8h, mais c'est quoi le wake surf? Robin Van Berg, le président du Ski Nautique Club de Neuchâtel et organisateur de l'événement, nous l'explique.
C'est assez simple, c'est vraiment une planche de surf qui va servir aux riders de pouvoir surfer la vague du bateau. À contraire du wakeboard où on est tracté par le bateau, là on va être complètement poussé par la vague que le bateau crée pour venir vraiment profiter comme une vraie vague qu'on peut retrouver dans n'importe quel océan à travers le monde.
Est-ce qu'il veut dire que le surf c'est l'océan, la vague qui se crée naturellement, là on suit un bateau qui lui va créer une vague, c'est ça?
Exactement, aujourd'hui la technologie des bateaux font qu'il y a énormément de possibilités, d'options pour créer et moduler sa vague comme on le souhaite, et ce qui permet vraiment d'avoir une vague assez imposante et qui vraiment nous transporte durant toute une session sans avoir besoin d'aide de tenir une corde. Donc c'est vraiment un pur plaisir, une sensation de glisse optimale.
Alors ça se pratique surtout sur les lacs, on en a pas mal en Suisse. Est-ce que ça veut dire qu'on est un pays où le wake surf, ça marche pas mal? Est-ce qu'on a des adeptes?
Alors oui, on a quand même plusieurs adeptes. C'est vrai qu'on est chanceux d'avoir de magnifiques lacs, dont le nôtre ici à Neuchâtel, qui est assez grand pour pouvoir vraiment profiter de ce type de discipline nautique. Je dirais qu'aujourd'hui, le sport est à son plus bas niveau, dans le sens où on commence aujourd'hui à exploiter cette discipline. Elle est devenue complètement tendance. On le voit aussi à travers cet événement qu'on organise ce week-end. On accueille plusieurs anciens champions du monde de wake surf. C'est un niveau professionnel. Il y a plus de 60 participants, presque 70, qui viennent de à peu près partout dans le monde. dont des Suisses qui vont aussi de la maison, qui vont essayer de représenter comme il se doit le pays et puis notre région pour, si possible, aller sur une marche de podium.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même d'être éclipsé par le surf, de vivre dans son ombre, puisque il a quand même lui acquis ses lettres de noblesse depuis de nombreuses années maintenant?
Absolument, non, c'est sûr, on n'essaye pas de rivaliser avec le surf. Je pense justement on essaye d'obtenir et de les mêmes sensations qu'on peut avoir sur les mers, mais sur un lac. Mais il y a un avenir derrière qui est encore bien plus grand, que ça soit des vagues artificielles avec des souffleries ou autres, mais toujours dans le but, et voilà, c'est aussi nous notre objectif et la vision qu'on a de pouvoir, sur le moyen long terme, changer les bateaux pour aussi faire en sorte d'être, je dirais, un petit peu plus écologique dans notre démarche sportive.
Et Robin Van Berg, vous avez parlé de professionnel et il y a un prize money de 10 000 $ pour le vainqueur. C'est pas rien, ça veut dire qu'il y a de l'argent, qu'il y a des sponsors autour de ce sport?
Alors effectivement, on a de la chance au Ski Nautique Club de Neuchâtel de pouvoir compter sur nos généreux sponsors. C'est vrai que ça attire un public de plus en plus large. On en tire de ça que les sponsors, que les entreprises régionales se doivent aussi de participer à ce type de compétition pour aussi faire évoluer le sport et surtout ces activités nautiques qu'on adore tous.
Et la grande finale de ce Swiss Wake Surf Contest, ce sera donc dimanche dès 9h sur le lac de Neuchâtel.
Jusqu'à 19h, Cap Sport.
On va s'intéresser au foot africain ce soir dans Cap Sport à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule depuis une semaine en Égypte. Où en est le foot africain? On va faire le point avec Raoul Savoie, entraîneur hispano-suisse de Sainte-Croix, habitué des sélections africaines. C'est d'ailleurs l'actuel sélectionneur de la République centrafricaine qui n'est pas qualifié malheureusement pour cette CAN.
Cap Sport.
Bonsoir Raoul Savoie.
Oui, bonsoir.
Raoul Savoie, vous avez entraîné pas mal de sélections africaines, de clubs également, au Maghreb notamment. Raoul, on voit qu'il y a beaucoup de football international en ce moment, mine de rien, la Coupe du Monde féminine, la Copa América, la Coupe d'Afrique des Nations évidemment, il y a aussi l'Euro Espoir. Pourtant, on a presque l'impression que cette CAN, elle a débuté dans un relatif anonymat, qu'elle a été un petit peu éclipsée par le reste, la Coupe du Monde féminine notamment. Est-ce que c'est votre sentiment aussi, alors que ces dernières années, on s'y intéressait quand même à cette CAN?
Bon, évidemment, par le passé, la CAN se jouait en janvier-février, donc à une époque où il y avait peu ou pas de football. Donc forcément, lorsqu'elle a été déplacée pour la première fois en été, comme vous le dites, avec les autres championnats et les autres coupes qui se déroulent, forcément, on s'en occupe un peu moins. La presse aussi est, en tout cas, suisse, n'est pas très intéressée par la CAN. La française, un petit peu plus, mais avec la Coupe du Monde féminine maintenant, évidemment. C'est un peu l'anonymat. En plus, elle n'est pas diffusée partout. Il faut être abonné à certains diffuseurs pour pouvoir la voir. Donc, c'est pas facile. Alors, c'est juste qu'elle est un peu comme éclipsée actuellement.
Sur ce que vous avez vu jusque-là, Raoul Savoie, est-ce que ça vous a emballé en termes de niveau de jeu par rapport aux années précédentes? Est-ce qu'on constate, selon vous, des progrès?
Pour la première fois, elle est passée à 24 équipes. Donc, forcément, il y a un peu plus de nations qui n'avaient pas l'occasion de la faire. Donc, ça a ouvert un peu plus le jeu. C'est peut-être un peu moins équilibré au niveau des phases de poule. Maintenant, comme elle se joue en juin, juillet, il y a forcément plus de joueurs, plus de stars. Puisqu'on le sait qu'à l'époque, en janvier, février, beaucoup de clubs retenaient leurs joueurs à cette période-là. Donc, forcément, il y a plus de stars. Donc, le niveau, je pense qu'il est meilleur dans l'ensemble. Maintenant, c'est une phase de poule. Mais je pense qu'à partir des huitièmes, on verra vraiment un très très bon football. Maintenant, il y a encore deux matchs à cette période qui se jouent dans la journée avec des 39-40 degrés. Donc forcément, le niveau ne peut pas être exceptionnel. Le jeu s'en ressent forcément.
Dans la politique football en amont en Afrique, ça fait maintenant de nombreuses années que des formateurs européens vont en Afrique, pas seulement des sélectionneurs, mais on commence aussi à la base. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on commence à voir les fruits de tout ça ou alors ça tarde à se concrétiser pour vous sur le terrain?
Non, on en voit les fruits, alors pas forcément toujours très positifs, parce que forcément, si on a des formateurs qui prennent des équipes très jeunes ou alors des jeunes qui partent vite à l'étranger en Europe, on perd un peu de ce naturel du joueur africain. Le jeu devient plus tactique, on est beaucoup plus précis sur beaucoup de choses, ce qui ne se faisait pas forcément il y a encore quelques années. Donc on a un jeu très tactique, physique aussi énormément, parce que les joueurs sont très bien préparés maintenant. Par contre, on perd un peu de folie. Donc, je vois par exemple avec ma sélection, la Centrafrique, j'ai pratiquement que des joueurs qui ont été formés en Europe. Donc forcément, quand on parle avec eux, on a une autre approche du foot, même si on représente un pays qui est vraiment au centre du continent. Donc, c'est un bien, mais en même temps, on a perdu un peu de ce naturel et forcément, le foot devient plus stéréotypé. Et certains le regrettent, surtout les locaux.
Raoul Savoie, si on parle des sujets qui fâchent, malheureusement, on a revu encore et toujours arriver ces fameux problèmes de primes, de conflits entre joueurs et fédérations. On l'a encore vu en ce début de CAN avec le Nigeria, il y a eu une grève pour exiger le versement de primes, etc. Comment on peut un jour réussir à lisser ces petits désagréments qui continuent, entre guillemets, de coller à la peau du football africain ?
C'est justement ce décalage dont je parlais en début d'interview, c'est-à-dire que les joueurs deviennent de plus en plus professionnels, préparer de plus en plus tôt à la haute compétition, aux exigences de cette compétition. Et à l'inverse, justement, les fédérations ou les personnels dans les ministères des sports, surtout parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, c'est les ministères et le gouvernement qui payent ce genre de primes et de déplacements. Donc il y a un décalage entre la réalité, je dirais, professionnelle de chaque joueur et même des encadrements de l'équipe avec, on va dire, les bailleurs de fonds qui, eux, ont un système forcément beaucoup plus lent, étatique, politique, qui n'est pas du tout au même rythme que le sportif. Et malgré parfois 2 ou 3 ou 4 mois entre le dernier match qualificatif et le début de la compétition, chaque fois, ça traîne. On doit arriver à ces extrémités où les joueurs doivent menacer ou alors doivent faire avec, mais garde en mémoire et à la prochaine compétition, ils se mettent tout de suite en grève ou en désaccord avec les gens. Donc, ça se passera toujours comme ça tant qu'il y aura ce décalage entre le sportif et les politiques.
Un des gros progrès possibles, il passe par là ?
Il passe par là, oui. L'autonomie des fédérations, toutes, c'est-à-dire qu'elles se trouvent des sponsors, qu'elles essayent d'être beaucoup plus professionnalisées. On voit le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, toutes ces grosses nations qui ont participé à 1 ou 2 Coupes du Monde. Elles se sont organisées de façon à être totalement indépendantes et ne plus attendre rien du tout, si ce n'est un coup de main de temps en temps du gouvernement ou de la présidence. Par contre, celles qui doivent être toujours au chevet de ces politiciens et des gouvernements, elles vont toujours souffrir. Je vois, moi, avec mon équipe nationale, avant chaque déplacement, c'est le gouvernement qui détient la clé si on va se déplacer rapidement, dans de bonnes conditions, ou si on va devoir attendre la dernière pour pouvoir rejoindre un pays ou un endroit où on doit aller jouer pour un match officiel ou amical.
Raoul Savoie, si on se penche un petit peu sur le sportif pur, sur les équipes de cette CAN 2019, qui est-ce que vous placez en favori ? Évidemment, il y a quelques belles cylindrées, c'est les grosses nations africaines qu'on a l'habitude de citer chaque année, mais lesquelles sortiraient du lot pour vous ?
Bon, forcément l'Égypte à domicile, non seulement par la qualité de ses joueurs, et c'est quand même une équipe qui a l'habitude d'être dans le dernier carré au minimum. Elle joue à domicile, avec le public, la pression, l'arbitrage aura certainement un petit rôle à jouer aussi, comme dans toutes ces compétitions internationales. Donc l'Égypte, forcément, on a des grosses nations du nord de l'Afrique, comme l'Algérie et le Maroc, qui ont quand même des grosses qualités. Après, est-ce qu'elles vont pas craquer peut-être sur un match sur la fin de tournoi, ensuite dans des équipes subsahariennes comme le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire que j'ai affronté moi en qualification, qui sont quand même des grosses nations avec beaucoup de très bons joueurs. Nigeria, il y a même beaucoup de joueurs qui évoluent en Angleterre, qui évoluent un peu partout en Europe. Même le Maroc, maintenant, bon, c'est une équipe jeune, mais il y a beaucoup de joueurs qui évoluent à l'Ajax, par exemple.
Ouais, avec Hakim Ziyech, notamment. Ouais.
Voilà, par exemple.
Justement, peut-être un dernier mot sur les équipes du Maghreb, parce que vous les avez évoquées. Il n'y a plus d'équipe en finale du Maghreb depuis 2004. C'était d'ailleurs une finale Tunisie-Maroc. Oui. Est-ce qu'on peut espérer cette année voir un retour de ces équipes qui, vous l'avez dit, ont quand même de bons effectifs ? C'est quoi leur faiblesse ? C'est éventuellement, physiquement, elles peuvent être plus en difficulté ?
Alors, je pense que pour eux, justement, c'est maintenant un avantage de jouer en juin et juillet. C'est justement ce qui leur coûtait un petit peu cher, c'était ces voyages en janvier, février, dans des zones un peu humides comme ça, où c'était compliqué pour eux à s'adapter. Et en plus, au niveau des clubs, ça fait maintenant 3 saisons que tous les champions des coupes africaines des clubs sont des équipes du nord de l'Afrique. Donc, elle est en train de prendre une domination au niveau club. Et je pense qu'avec cette nouvelle formule, comme on l'a dit, ils risquent aussi de mettre la main sur cette coupe dans quelques jours.
Merci beaucoup, en tout cas, Raoul Savoie, de nous avoir accordé quelques minutes pour évoquer la CAN. Merci
à vous.
Très bonne soirée.
Merci et à bientôt.
Cap Sport.
Cap Sport, c'est fini. Émission à retrouver sur nos applis et nos sites internet. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, le 5 juillet. On parlera notamment du Tour de France qui va démarrer le lendemain, le 6. Très bonne soirée.
Cap Sport.